Cette année, nous avons décidé de vraiment nous caler sur le programme que l'organisation Portes Ouvertes mettait à disposition des églises pour ce dimanche de l'église persécutée, pour vraiment bien utiliser les différentes ressources qu'ils mettaient à notre disposition, mais aussi pour nous associer vraiment de tout cœur avec les autres églises qui, dans le monde et en particulier dans notre pays, se joignent aujourd'hui pour prier. Je ne sais pas si vous aviez vu sur l'écran, il y a deux logos, le logo du CNEF et le logo de la Fédération protestante de France. C'est un mouvement qui essaye de vraiment toucher toutes les églises pour que toutes les églises, ensemble, aujourd'hui, prient et intercèdent. Alors évidemment, comme nous venons de le dire, ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire seulement un dimanche par an. C'est vraiment un mouvement dans lequel nous voulons nous associer. Alors ce matin, ce que je voudrais faire, c'est me faire le porte-parole de ce que Portes Ouvertes a préparé. Et Portes Ouvertes a fait des suggestions pour une prédication qui tourne autour de ce sujet. L'hiver de l'Église et le printemps de la foi. Alors vous savez tous, le mot ou l'expression « printemps de la foi » nous vient de cette expression qu'on a beaucoup entendue dans les médias, les printemps arabes, cette résurgence un petit peu de volonté démocratique. Mais ici, Portes Ouvertes met en évidence qu'il y a aujourd'hui à la fois un hiver de l'Église qui est aussi l'occasion d'un printemps de la foi. Alors on peut se dire, c'est peut-être un petit peu facile pour des gens en Occident d'inventer des slogans, etc. Mais j'ai été étonné tout à l'heure, et je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, de ce pasteur en Syrie qui dit « Nous prions pour la paix, mais le printemps de la foi est aujourd'hui. » Un pasteur en Syrie, aujourd'hui, avec ce que nous savons qu'ils sont en train de vivre, il ose dire « que le printemps de la foi est aujourd'hui. » Et c'est une vérité qui est en train d'émaner, de sortir de ces pays. Et donc je vous invite vraiment à écouter ce matin, pas parce que c'est moi qui l'ai préparé, et c'est pas moi qui l'ai préparé, mais ce que Portes Ouvertes a mis en évidence. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous pensons à l'Église, nous prions pour un réveil, nous prions pour la paix, nous prions pour que l'Église prospère, nous prions pour que les conditions soient favorables au développement de l'Église. Et pourtant, on se rend compte que dans nos pays où les choses sont relativement simples et faciles, grosso modo, nos églises ont plutôt tendance à stagner et à ronronner, etc. Par contre, lorsqu'on regarde ces pays et ces 50 pays dont nous parlons, ce sont des pays où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au sein de l'Église. Et c'est déjà un phénomène qu'on a pu observer il y a déjà très longtemps, lorsque c'était la persécution communiste. On s'est rendu compte, lorsque la Chine s'est ouverte à un certain moment, que tout d'un coup quelque chose s'était passé que personne ne soupçonnait, et que l'Église était non seulement née, mais elle avait grandi, elle s'était fortifiée, et c'était en millions qu'on comptait le nombre de chrétiens, en dépit d'une persécution. Et donc il y a ce phénomène un petit peu paradoxal lorsque nous pensons à l'Église persécutée, et c'est apparemment paradoxal, et pourtant ce que Portes Ouvertes nous dit, et ce que veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait tout cela nous a déjà été annoncé dans l'Écriture. Et que Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et tout ça, ça a été développé après, et en fait, les chrétiens ont vécu ça. Et dès la première église, les chrétiens l'ont vécu. Et l'apôtre Paul lui-même, dans son épître aux Philippiens, dès le premier chapitre, il dit ceci, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé, » donc il va parler un petit peu de tout ce qu'il a souffert au cours de son ministère, et ce qu'il est en train de souffrir en ce moment, puisqu'il est en captivité, « tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour le Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. La plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, non pas par son succès, non pas parce qu'il était libre d'aller partout où il voulait pour continuer à planter des églises, mais parce qu'il était prisonnier, ces chrétiens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe ! Qu'importe ! De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, avec toutes les nouvelles qu'on entend, on a l'impression que dans ces pays, c'est plutôt l'hiver de l'Église. Il y a quelques semaines encore, je vous invitais à prier pour des chrétiens dans le nord de l'Irak, et j'étais plutôt abattu à entendre toutes ces histoires qui étaient en train de se passer. Des témoignages qui nous arrivent, des églises qui sont décimées, des chrétiens qui ne peuvent plus se rassembler, des pasteurs qui ne savent plus quoi faire. Et pourtant, l'apôtre Paul dit « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et comme je disais tout à l'heure, lorsque Paul écrit ça, il est en prison. Et ce n'est pas la première fois qu'il est en prison. Et il fait allusion dans ce passage à toutes les persécutions qu'il a connues, mais il dira la même chose aux Corinthiens. Lorsqu'il écrira aux Corinthiens dans la deuxième épître, au chapitre 11, il va énumérer toutes les tribulations et toutes les difficultés qu'il a vécues au cours de son ministère. Et c'est là, lorsque nous pensons à la façon dont nous abordons la question de la persécution et de la souffrance, notre premier réflexe est de fuir ce genre de choses-là, de chercher à les surmonter, à les dépasser, de prier que Dieu, en fait, ramène la paix et ramène ce que nous appelons prospérité. En plus, lorsque les médias parlent de ces populations, elles parlent généralement de leurs afflictions. Elles parlent de ce qui va mal. Et elles s'arrêtent à cela. Et c'est là où aujourd'hui il faut que nous prenions un peu plus conscience de ce que cela signifie de vivre sa foi dans un contexte totalement hostile. Parce que la persécution aujourd'hui n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Dans nombre de pays, apparemment, la persécution est préméditée et même elle est organisée. Elle cherche à éliminer la présence des chrétiens et d'essayer d'éradiquer complètement la présence de l'Église et de l'Évangile. Et aujourd'hui, la persécution prend plusieurs formes. Et je crois que c'est important pour nous de prendre conscience de comment cette persécution se manifeste aujourd'hui, afin que nous puissions mieux prier aussi pour les chrétiens. D'abord, il y a le désarroi de ceux qui sont nés chrétiens dans un milieu totalement hostile aujourd'hui, et c'est le cas en particulier des chrétiens au Moyen-Orient, qui font face non seulement à la présence d'une autre religion dominante qu'est l'islam, mais un islam qui a été transformé dans une pensée politique et qui devient un régime et qui met en place toutes sortes de politiques en fait pour n'autoriser qu'une seule religion qu'est l'islam. Et de plus en plus de positions islamiques se radicalisent et deviennent des positions islamistes. Donc non seulement des chrétiens vivent dans un environnement qui ne leur est pas propice et qui leur est hostile, mais dans certains cas et dans certains pays, comme par exemple la Syrie, aujourd'hui c'est des mouvements littéralement de terreur qui sont mis en marche contre les chrétiens et qui se manifestent effectivement par des pillages, des tortures, de la violence. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure au Pakistan, par le meurtre. Et ça se reproduit au Moyen-Orient, ça se reproduit au Pakistan. Vous en avez entendu parler au Nigeria, le mouvement Boko Haram qui sévit dans le nord du pays et qui sème la terreur. Mais c'est aussi cette pression pour raisons politiques en Corée du Nord. On qualifie la persécution là-bas de la plus noire, la plus absolue, où le simple fait de posséder une Bible est passible de mort. Ce sont des atmosphères qui imprègnent chaque jour que les chrétiens vivent en Somalie, où pour un oui ou pour un non, on décapite les gens publiquement. Et puis après, ce sont des attaques sauvages, meurtrières, à l'aveugle, qui existent aujourd'hui encore en Irak, dans un état de guerre. Et je vous invite vivement à aller voir sur le site de Portes Ouvertes ce qu'ils appellent l'index de la persécution, qui est tout simplement une série de pays qui sont décrits chaque année. Et là, ils parlent des 50 premiers pays dans lesquels ils décrivent les conditions dans lesquelles les chrétiens vivent et comment se manifeste cette persécution. Et en fait, on se rend compte, au fur et à mesure, parce que ça fait plusieurs années qu'ils font cet index, c'est que la persécution est un mouvement qui est en train de se développer et en train de croître, et qui devient plus important. Pendant longtemps, on avait peut-être pensé que la démocratie, que les droits de l'homme allaient pouvoir conquérir un petit peu les esprits humains, et que peu à peu, on aurait un petit peu tous un espace dans lequel on pourrait vivre et qu'on se respecterait les uns les autres. Mais le mouvement de balancier est tout autre en ce moment. Et qu'en dépit de tous ces grands documents que nous avons, de ces grands idéaux, dans le monde, la persécution est encore en train de progresser et elle progresse de plus en plus contre les chrétiens. Toutes les régions, comme le sud de l'Afrique ou le sud du Sahara, presque tous les pays, là, des mouvements sont en train de se déplacer. C'est une contagion qui passe d'un pays à l'autre. On constate aussi qu'un des phénomènes qui aujourd'hui contribue à la persécution, c'est lorsque l'État et le gouvernement d'un pays est faible. Vous prenez des pays comme le Yémen, la Somalie, là où les gouvernements sont très faibles et il est impossible de mettre en place des politiques pour garantir un petit peu la liberté de pensée des uns et des autres. C'est devenu tout d'un coup le chaos et des petits groupes qui, eux, décident qu'ils ont la vérité ou qu'ils vont imposer leur façon de penser, eh bien, partent en guerre et persécutent ceux qu'ils ne tolèrent pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a un hiver chrétien, un hiver de l'Église, et qui est en train de devenir de plus en plus froid. C'est donc une violence physique qui est destructrice, comme on l'a vu tout à l'heure encore au Pakistan. Et ça a un impact extrêmement néfaste sur beaucoup de minorités, mais qui aujourd'hui encore n'arrive pas à attirer l'attention des médias, quoique peu à peu on commence à entendre que des choses assez horribles se passent. Mais si vous étiez un chrétien du Moyen-Orient aujourd'hui, quelle serait votre vie quotidienne? Voici ce que vous vivriez certainement. L'atmosphère dans laquelle vous vivriez au quotidien serait celle d'une oppression, celle où on vous regarde de travers. 5 fois par jour, vous entendez l'appel du muezzin. Et vous dites, mais ce n'est pas ce que moi je vis. Ce n'est pas important pour moi. Et pourtant, je le ressens constamment. Vous sentez constamment dans les remarques de vos voisins ce sous-entendu qui vous dit, vous n'êtes pas vraiment des nôtres. On vous tolère dans notre pays, mais tu n'es pas vraiment de chez nous. On va commencer à limiter vos droits. Et puis en particulier les femmes risquent d'être agressées. Vos enfants, on vous demande de les mettre à l'école coranique. Et chaque jour, vous êtes discriminé, tout particulièrement dans votre travail. Et lorsque vos ressources sont limitées, votre travail, c'est presque tout. Ainsi, vous devenez de plus en plus vulnérable et une proie facile, et vous n'avez pratiquement aucun droit. Ça, c'est si vous êtes chrétien dans un pays musulman. Mais si vous êtes né dans une famille musulmane et que, par malheur, vous convertissez au christianisme, c'est alors que votre propre famille peut se retourner contre vous et seront les premiers à vous poursuivre. Vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère, les oncles, les tantes. Vous perdrez votre emploi, vous perdrez vos amis et même peut-être vous perdrez votre conjoint et vos enfants. Et pire que tout, les églises qui ont pignon sur rue ne vous accueilleront pas parce qu'il est interdit de se convertir dans les pays musulmans. Et recevoir des convertis est quelque chose qui est passible de condamnation pour les églises aussi. Ainsi donc, même à l'intérieur de l'Église, votre conversion peut créer des divisions. Et peut-être un jour, vous serez obligé de fuir pour garantir votre sécurité. Et constamment, on vous posera la question, mais pourquoi as-tu quitté l'islam ? Et c'est là où, peu à peu, toute la notion d'espérance, la notion de futur se dissipe complètement. Et c'est cela que vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde. C'est pas simplement on les tue, mais c'est simplement au jour le jour, l'étau se resserre. Et pourtant, si nous nous arrêtons simplement à cette description-là de la persécution, et si nous prions uniquement que Dieu soutienne ces chrétiens ou les délivre de cela, on ne regarde pas tout ce qui est en train de se passer au sein de la persécution. Et comme dit l'apôtre Paul, lui-même le voyait, il dit « La plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Parce que ce qu'on observe, c'est que dans ces situations de persécution, les chrétiens sont très vite amenés à faire un choix entre deux choses très simples. La première, c'est soit de céder sous la pression. Et comme Job, vous vous souvenez un petit peu, lorsque Job était persécuté par le diable, sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais ça ne te sert à rien. Allez, maudit Dieu !» et meurt. Ou la deuxième option, c'est plutôt de se jeter à bras perdus, en fait, dans les bras du Seigneur, et de continuer à proclamer et de trouver refuge dans des paroles comme celle qui dit que l'Éternel est bon, qu'il est un refuge au jour de la détresse, et qu'il connaît tous ceux qui se confient en lui. Il connaît tous ceux qui se confient en lui. Et c'est ce que dit ce chrétien égyptien. Et il dit la question la plus importante n'est pas tellement que va-t-il se passer demain, mais plutôt que pouvons-nous faire aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Et il continue avec ses paroles, je crois que c'est une opportunité pour rechercher la repentance et le salut de notre nation. Bien sûr, nous avons connu l'injustice, la discrimination, et les agressions physiques depuis des décennies. Mais ce n'est plus le moment pour notre Église de se plaindre que ses droits sont bafoués, que ses bâtiments sont détruits, qu'elle souffre. Non, le temps est venu de proclamer le Seigneur Jésus. C'est ainsi que plusieurs assemblées en Syrie, conscientes de la misère dans laquelle a sombré leur pays, se sont mobilisées, sont sortis de leurs murs pour agir. Et l'Église est en train de connaître un changement et une transformation inconnue à ce jour. Dieu fait une œuvre qui est remarquable au sein d'un conflit qui est effroyable. Et un des pasteurs restés en Syrie ose même dire « C'est comme si nous vivions le livre des Actes à nouveau ». Bien sûr, encore une fois, nous serions tentés de croire que l'Église s'affermit et connaît la croissance seulement lorsque les conditions sont favorables, dans un contexte de prospérité. Mais ce que nous observons aujourd'hui dans les pays où les chrétiens sont persécutés, c'est fondamentalement l'inverse. La persécution, d'une part, est en train de séparer la balle du grain. Les chrétiens sont testés. Et ils sont appelés à prendre fermement position pour le Seigneur. Mais c'est aussi des conditions dans lesquelles l'Église est affermie parce qu'elle apprend à résister et à résister avec les armes du Seigneur. Et bien souvent, on constate que la persécution est l'étincelle qui enflamme le processus de la vie de l'Église. Et si vous reprenez le livre des Actes dans les premiers chapitres, là où le Seigneur promet que l'Église va prospérer de Jérusalem dans toute la Judée, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, le premier réflexe de l'Église a été de rester à Jérusalem et de prier. Et ce n'est que sous la persécution que les chrétiens sont obligés de fuir Jérusalem et qu'ils annoncent la parole en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ainsi, un pasteur syrien d'Alep, dit les choses suivantes. « Je crois et je constate que Dieu est à l'œuvre dans le pays. Il nous a fait sortir de nos quatre murs. Dans le passé, nous n'avions que nos cultes, nos chorales, nos activités sociales. Il dit maintenant, je vois l'Église aller vers ceux de l'extérieur. Nous sortons enfin de notre zone de confort. » Et c'est ainsi, lorsque nous entendons ces paroles, que nous pouvons, avec foi, dire qu'il y a un printemps de la foi aujourd'hui, là où il y a un hiver de l'Église. Et encore une fois, pour faire écho à un verset de l'apôtre Paul, qui dit « Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté. » Cette hardiesse de l'apôtre Paul, au moment où il était en captivité, qui savait très bien que son procès était mal emmanché, il a encore cette hardiesse de dire « Plus encore que maintenant, je n'aurai honte de rien, mais comme toujours, Christ sera exalté. » Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la foi, lorsqu'elle est vécue dans certaines circonstances, et nous le savons aussi dans certaines circonstances que nous vivons aujourd'hui, la foi, c'est quelque chose de risqué et de dangereux. Nous avons souvent tendance à assimiler la victoire dans la foi au bien-être matériel et des conditions dans lesquelles nous vivons. Cependant, la Bible nous montre que le printemps de la foi ne signifie pas toujours que la souffrance prend fin. L'apôtre Paul reste en détention. Et de même, l'hostilité envers nos frères au Moyen-Orient perdure. Et il est difficile d'anticiper quand exactement tout cela s'arrêtera. Mais pourtant, l'essentiel est de glorifier Christ en toutes circonstances et quelles qu'en soient les conséquences. Mais l'autre chose qui est à noter aussi, c'est que la foi qui dure, la foi qui est victorieuse, ce n'est pas une foi qui trouve simplement dans les circonstances ou dans sa propre personne l'énergie et la force qu'il faut pour tenir. Le sursaut de l'apôtre Paul, ce n'est pas simplement parce que l'apôtre Paul avait un caractère trempé. Ce n'est pas simplement parce que c'était quelqu'un qui devait dire « je suis plus fort que toi, je tiendrai plus longtemps que toi » et qui avait une telle conscience de soi qu'il n'allait jamais renier ce qu'il pensait. L'apôtre Paul a tenu et les chrétiens tiennent aujourd'hui parce que le Dieu qui est souverain, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et qu'au-dessus de toutes les circonstances que vivent les chrétiens aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est parce que Dieu est souverain. Et comme nous l'avons souvent dit, il est difficile de comprendre pourquoi Dieu permet certaines situations, pourquoi notre foi est mise à l'épreuve comme elle l'est, et surtout, lorsqu'on entend des histoires comme ce matin et ce à quoi sont exposés certains chrétiens, comment peut-on considérer la souveraineté de Christ dans des situations extrêmes. Et ici, le témoignage d'un chrétien de Corée du Nord et qui parle des réunions de prière qu'ils ont. Il dit, lorsque nous nous rassemblons, la première des choses, c'est que nous recouvrons les portraits de nos leaders politiques accrochés au mur et puis nous nous agenouillons en cercle sur le sol. Et nous prions pour recevoir de la force et de l'endurance. Nous prions pour que Dieu sauve notre pays. Puis nous supplions Dieu, pardonne-nous de nous être inclinés devant des idoles. Nous te prions, Père, de restaurer l'Église de Corée du Nord. Des mots très simples, mais des mots qui sont encore imprégnés d'une vision et d'une conviction que, au-delà de tout ce qui se fait en Corée du Nord, de tout le système qui est en place, de toute l'oppression qui peut exister, c'est le Seigneur encore qui est digne de gloire et c'est le Seigneur qui est souverain. Ainsi donc, chers amis, il faut prendre conscience que la foi chrétienne et notre foi peut être dangereuse et dangereuse pour nous. Et c'est là où il nous faut nous poser la question, à savoir qu'est-ce que nous poursuivons dans notre vie chrétienne ? Est-ce que nous poursuivons la libération de ces conditions-là ? Ou est-ce que nous poursuivons la proclamation de l'Évangile et la souveraineté du Seigneur? Et la souffrance des chrétiens de Corée du Nord révèle la suprématie de Christ. Car comme vient de le dire de ce chrétien, ils fixent leur regard sur leur récompense à savoir Jésus-Christ lui-même. En conclusion, citons à nouveau ce verset de l'apôtre Paul qui dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Paul avait fait l'expérience de la souffrance qu'il avait subie à cause de la bonne nouvelle de Jésus. Mais il savait aussi que la vie chrétienne est un combat et que l'unité des frères et sœurs dans la prière était indispensable pour surmonter l'épreuve. Et ce dernier point est certainement le point important de notre conclusion. Paul écrit aux Philippiens pour leur faire part aussi de la détresse dans laquelle il est, mais aussi pour les encourager, mais aussi pour leur demander de prier, de s'associer à lui pour qu'ils tiennent ferme. Et là, un chrétien de Gaza aujourd'hui fait un petit peu écho à cela en disant « Il y a des chrétiens de par le monde qui, par compassion, viennent au secours de ceux qui font partie de la famille de Dieu. » Il dit « C'est une chose formidable, car cela exprime la communion fraternelle. » Mais je vous en prie, ne vous privez pas du courage que Dieu nous donne. « Nous ne voulons pas de pitié, dit ce chrétien, mais restez à nos côtés pour que nous puissions grandir ensemble en force. » et encourage. Chers amis, nous faisons tous partie du même corps. Nous sommes associés, que nous le voulions ou non, à ces chrétiens persécutés aujourd'hui au Moyen-Orient, en Afrique, en Corée et dans bien d'autres pays. Et nous avons une responsabilité envers eux, qui n'est pas celle nécessairement ou qui s'arrête seulement à la pitié envers eux, mais c'est de nous associer dans la prière et dans la lutte que eux-mêmes mènent au quotidien dans leur vie. Cette responsabilité, c'est aussi un privilège que nous avons en tant que chrétiens. Chers amis, le printemps de la foi, nous y aspirons tous. Et je pense que tous ici, nous aspirons à ce que notre pays connaisse aussi un réveil sur le plan de la foi. Mais c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Mais il le fera advenir par des chemins parfois bien différents de ce que nous imaginons. Mais ce qui est formidable, c'est que, encore une fois, comme il l'a fait dans le premier siècle, il le fait encore au XXIe siècle. C'est qu'aucune persécution, aucun projet humain pour détruire son Église et pour l'éradiquer n'en viendra au bout. Mais comme la semeuse, vous soufflez sur un pissenlit pour essayer de le détruire, tout ce que vous faites, c'est que vous ensemencez le champ d'à côté. Chers amis, que nous puissions continuer à prier, et pour moi cette prédication m'éclaire beaucoup en fait sur mon rapport aux chrétiens persécutés. C'est pas simplement m'associer dans la pitié à eux et de prier pour eux, pour qu'ils tiennent fort. Mais c'est aussi de constater à quel point le Seigneur est en train d'utiliser ça pour faire progresser son évangile et son règne. Et j'ose le dire, c'est un sujet de reconnaissance et de réjouissance. Que nous puissions donc tous nous associer avec nos frères et sœurs dans la peine, mais aussi louer le Seigneur parce que son évangile progresse. Je laisserai la parole maintenant à Anne-Marie qui nous donnera quelques exemples pour lesquels nous pouvons prier.
Chers amis, aujourd'hui c'est un jour vraiment spécial puisqu'il y a 400 églises en France qui sont au bénéfice de ce programme et qui vont prier pour nos frères de l'église persécutée. Donc nous avons parlé de différents pays et notamment nous allons, voilà ce qu'on vous propose, c'est on va prier en petits groupes de 5-6, on va tourner un peu les chaises pendant 5-10 minutes et pensez donc à l'église de Corée du Nord qui existe, qui est là, mais avec des chrétiens qui vivent leur foi dans le silence. Et on peut demander plus spécialement de prier pour la protection des chrétiens chinois et sud-coréens qui viennent en Corée du Nord pour encourager leurs frères et pour leur apporter un peu de littérature. On peut prier pour cet homme, un Coréen qui s'appelle Kim Jong-wook, qui a été arrêté et condamné à la prison à vie en Corée du Nord. Voilà. On peut aussi prier pour la Syrie, bien sûr. Vous savez que à cause de la guerre, il y a à peu près 450 000 chrétiens qui se sont exilés et qui vivent dans des camps autour de la Syrie. Malgré tout, il y a des chrétiens qui ont décidé de rester, qui ont peur, mais qui veulent continuer à servir le Seigneur. Et je pense à cet homme, Samir, qui souhaite emmener des enfants de son église dans un camp de jeunes à Alep. Nous attendons 70 participants. Les enfants ont besoin de passer du temps ensemble. Ils ont besoin de jouer pour oublier toutes les choses terribles qui se produisent autour d'eux. Et il conclut en disant, nous sommes là, nous ne voulons pas partir parce que nous essayons malgré tout d'être la lumière de Dieu là où nous vivons dans notre communauté. J'aimerais aussi qu'on prie pour le Nigeria parce que il y a des choses terribles qui se passent avec cette secte de Boko Haram qui sème la terreur. Vous vous souvenez de ces jeunes filles qui avaient été enlevées il y a plus d'une année et ils ne sont toujours pas libérés. Et dernièrement, ils ont encore effectué une rafle. Ils ont attaqué plusieurs villages et ils ont enlevé 30 jeunes gens et 40 jeunes femmes. Et beaucoup de personnes ont fui parce que ce groupe islamique a pris le contrôle de 25 villes. Alors, des milliers de personnes vivent dans des grottes, sur les montagnes ou dans la forêt. Donc, vous imaginez le dénuement qu'ils vivent. Donc, prions pour ces chrétiens, nos frères. Et puis, prions pour les chrétiens d'Irak. Ils ont fui l'Irak, mais beaucoup, 500 familles, ont décidé de revenir. Ils sont soutenus matériellement par Portes Ouvertes, mais ils ont peur de cet environnement qui reste malgré tout très hostile. Prions pour eux. Et puis, avec Daniela, nous avons évoqué le Pakistan. Vous savez que le Pakistan est dans un climat de terreur à cause de cette fameuse loi sur le blasphème. Plus personne n'ose parler, défendre, par exemple, Asia Bibi, cette jeune femme qui avait été condamnée à mort. Elle avait fait appel de sa condamnation. Elle a été une deuxième fois condamnée à mort pour des mots insignifiants. Et personne n'a osé la défendre ou minimiser ce qu'elle avait dit à cause de cette fameuse loi sur le blasphème. Et elle et son avocat se lancent dans un ultime recours vers la Cour suprême du Pakistan. Prions pour Asia Bibi qu'elle garde cette paix qui surpasse toute intelligence dans sa prison. Voilà. Alors je vous propose qu'on se mette un petit peu en groupe et je terminerai. Nous pourrions encore passer du temps à prier, n'est-ce pas? Et je vais juste conclure dans la prière. Oh Seigneur, merci. Merci parce que finalement, ces chrétiens, ces frères et sœurs qui souffrent, eh bien, ils nous encouragent. Mais Seigneur, que ce ne reste pas naître morte pour nous, mais que pour nous aussi, nous puissions sortir de notre zone de confort. Et vraiment, ne pas avoir peur de témoigner, de te mettre en premier dans notre vie à chaque moment de notre journée. Seigneur, que donne cette force à chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions vraiment le vivre durant cette semaine, que nous puissions garder aussi l'amour pour nos frères et sœurs qui vivent dans la souffrance, qu'ils puissent être dans notre cœur, Seigneur. Et que nous puissions penser à eux et prier pour eux. En ton nom. Amen. Philippe va encore faire les annonces.
Non, je ne m'appelle pas Philippe. Je voulais simplement dire quelques mots à propos de notre séminaire de hier après-midi, parce que vous savez que, ou la plupart d'entre vous, vous savez que hier après-midi, on avait un séminaire ici sur l'islam avec Christian Bibolet, qui travaillent à Genève parmi les musulmans. Et j'aimerais vraiment vous encourager, nous avons mis en fait tout l'enregistrement de l'après-midi, où ça va être sur le site. On va le découper en morceaux, comme ça vous n'avez pas besoin d'écouter 4 heures et quelques de suite là-dessus. Mais il y a trois grands sujets qu'on a abordés hier, et c'était vraiment une séance très, très informative pour nous qui étions là. Le premier sujet, c'était naturellement essayer de connaître un peu plus l'histoire de l'islam et comment il est né. Et vous constaterez aussi à quel point il est né dans des circonstances où l'évangile n'était peut-être pas suffisamment bien enraciné ou suffisamment dynamique. Et que là, ça a été une des causes qui a permis peut-être aussi à l'évangile, à l'islam de naître et de prospérer. La deuxième partie, c'est aussi sur quelles sont les objections aujourd'hui que les musulmans ont à l'égard des chrétiens et surtout de l'évangile. Et tout ça qui nous aide aussi à comprendre déjà ce qui est dit dans le Coran, quelles sont certaines des objections. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement instructif pour, en fait, comment engager les conversations avec des musulmans. Pas dans le but de leur montrer que nous avons raison, parce que ça, c'est pas vraiment le but, mais de partager une bonne nouvelle qui est une nouvelle à salut avec eux. Et puis la troisième partie, c'était sur comprendre un petit peu cette crise de l'islam qu'on connaît peut-être un petit peu aujourd'hui et qui se manifeste par énormément de radicalisation et de violence et d'intolérance. D'où est-ce que cela vient? Qu'est-ce qui a créé ces conditions? Et comment est-ce que, dans un sens, nous pouvons aussi réagir? Alors, ça a provoqué beaucoup de différentes discussions entre nous. J'ai discuté avec plusieurs personnes. Il y a des choses qui vont certainement suivre. Mais n'hésitez pas à télécharger ces séances et puis prenez le temps un petit peu de les écouter. Vous serez certainement éduqué, comme moi j'ai été éduqué, mais aussi je crois que ça vous aidera à avoir une attitude plus positive, plus ouverte, plus aimante à l'égard des musulmans dans le monde aujourd'hui, plutôt que de tomber dans ce qui peut-être est en train de se passer. C'est une sorte de crispation envers l'islam et envers l'islamisme dans le monde. Donc, encore une fois, d'ici un jour ou deux, ça sera sur le site, n'hésitez pas à aller les télécharger.
Donc, juste pour faire suite, je vous rappelle l'index de la persécution qui est fait par Portes Ouvertes. Et donc, on vous invite pour cette première semaine à prier pour la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est reconnue comme le pays dans lequel c'est le plus difficile d'être croyant et de partager sa foi aussi. Ensuite, donc, il y aura tout un travail. Il y aura chaque semaine, on va vous proposer de prier pour un autre pays, de façon à tourner entre ces pays, puis que chaque pays soit dans nos cœurs et que l'on pense à tous nos chrétiens qui sont dans le monde et dans les pays persécutés. Ce matin, on avait un petit déjeuner qui nous était préparé par le groupe de jeunes. Moi, j'aimerais les remercier chaleureusement. Merci beaucoup. Et donc, tout le travail qu'ils ont fait de préparer ce petit déjeuner, de nous servir et tout, était aussi en vue de partager cela avec l'église persécutée. Et donc, au fond de la salle, il y a encore quelques pots de confiture qui restent. Donc, si des personnes, enfin, ceux qui veulent, vous pouvez vous servir, vous pouvez prendre un pot de confiture. Derrière les pots de confiture, il y a un petit cochon. Donc, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et qui sera ensuite transmis à Portes Ouvertes, donc à la fois pour les petits déjeuners, pour ce qu'on a reçu, et aussi pour les pots de confiture. Merci. Le programme de la semaine. Demain soir, la chorale se rencontre et répète donc ici dans cette salle. Ça fait plus d'un mois que la chorale se réunit toutes les semaines. Vous avez remarqué. Une fois à Saint-Genis, une fois ici, puisque la chorale prépare un concert de Noël. Et donc, il y aura deux concerts de Noël. Un le 6 décembre, qui sera à la salle Gaston-Laverrière, donc sur la commune de Prévesin. Et un autre le 20 décembre, qui sera à Saint-Genis, à la salle Jean Monnet. Et donc, on aurait besoin, à la fin du culte, après le culte, qu'il y ait 4 ou 5 personnes qui puissent enlever les chaises qui sont dans la moitié de la salle du côté de la chaire. Donc on va enlever toutes les chaises ici et faire des piles de chaque côté, de façon à ce qu'on puisse répéter avec les différentes parties de la chorale en place. Voilà, merci à quelques personnes peut-être de donner un petit coup de main. Et puis vous pouvez rester dans la salle pour discuter après le culte, mais tenez-vous peut-être plutôt de l'autre côté. Mardi après-midi. Ah oui, il y a Femme Club, ouais, juste. Lundi, donc, à 14h, Femme Club, chez Rebecca. Désolé pour l'oubli. Mardi, à 14h30, il y a l'étude biblique pour les aînés. Mardi aussi, à 20h30, les cellules. Alors, la cellule de Gex va se retrouver chez Jean-Paul et Lydie. Cellule de Collonge, chez Craig et Florence. Et puis la cellule de Prefsin chez Emmanuel et Rebecca. Jeudi, il y a la rencontre de la pastorale, merci d'y penser. Jeudi, il y a aussi la suite du parcours baptême à 20h30. Samedi prochain, il y a un club d'enfants. Alors, pour les clubs d'enfants, vous pouvez prendre des petits papillons bleus comme celui-ci qui sont au fond de la salle. Alors, n'oubliez pas de mettre le nom et la date à laquelle a lieu le club d'enfants pour lequel vous invitez l'enfant. Ça permet comme ça d'avoir qu'un seul papillon pour toute l'année, ce qui permet de faire des économies bien sûr, mais ce qui permet aussi d'avoir un suivi, puis comme ça les enfants se rappellent que c'est le même club que celui auquel ils ont peut-être déjà participé. Donc n'oubliez pas de mettre le nom de l'enfant que vous invitez et la date à laquelle le club a lieu. Ensuite, il y a un deuxième petit papillon qui est d'une autre couleur dans notre graphisme, qui est plus pour vous, pour ce que vous rappeliez, où il y a donc toutes les dates des clubs d'enfants pour toute l'année. Comme ça, ça vous permet aussi de prévoir et de planifier. Samedi, le groupe de jeunes qui se retrouve. Dimanche prochain, on a notre culte ici à 10h30. Avant le culte, oui.
Groupe d'ado à 15h.
Groupe d'ado à 15h samedi prochain. Ensuite, dimanche prochain, donc, il y a aussi le thé café à 9h30 et le culte. Dimanche prochain, à l'église de Saint-Genis, j'ai mis des petits papillons au fond ainsi qu'une affiche. Ils refont quelque chose qu'ils avaient fait il y a quelques années qui s'appelle la marque l'expérience. Hein? Ils avaient fait ici, oui, tout à fait. Donc, ils refont cette pièce de théâtre et qui est, moi, qui m'avait beaucoup apporté parce que ça donne un autre regard sur l'Évangile. Donc, c'est une pièce de théâtre qui passe en revue tout l'Évangile de Marc ou en tout cas certains passages clés. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe dans la salle. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, il faut aussi qu'il y ait des choses à découvrir. Ça se passe dans la salle, c'est très prenant, et ça donne un autre regard sur l'Évangile. Le fait qu'il y ait un passage en revue comme ça de tout l'Évangile, ça donne un autre regard qui est très intéressant, qui est très utile. Il y a eu mardi le décès de Erwin Geiser, qui était le papa de Roland. Alors, toutes nos pensées vont vers eux. Ils ne sont pas là, bien sûr. La cérémonie aura lieu demain à 14h. Donc, on veut vraiment penser à eux pendant ce temps de séparation, de deuil. Je crois que certains vont participer. Donc, si quelqu'un voulait se joindre, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est près de Bâle. On a eu aussi cette semaine une naissance dans l'église. Donc la famille Perronard s'est agrandie. Donc c'est Marion Perronard qui est née vendredi à 17h. Elle mesure 47 cm, pèse 3 kg. Zoé est encore à l'hôpital à La Tour. Vous pouvez la visiter cet après-midi, demain après-midi, Mardi, ce sera trop tard puisqu'elle sort mardi. Les calendriers sont disponibles. On a déjà fait l'information. Je rappelle que c'est une caisse séparée. Donc Anne-Marie s'occupe de la vente. N'hésitez pas à contacter. Au niveau de la librairie, le dépôt de Noël est arrivé. Donc livres, CD, BD, etc. Il n'y a pas ou peu de calendriers. Si vous en voulez, donc les calendriers muraux avec tous les jours de, avec chaque mois, etc. Les calendriers autres que ceux qui ont un petit feuillet. Hein. Donc si vous en voulez, il y a possibilité d'en commander. Regardez ça avec Pascal. Sinon, je vous rappelle la banque alimentaire. Donc les vendredis 28 et samedi 29 novembre, qui est donc un moyen de participer, d'aider pour récolter de la nourriture pour les personnes démunies. On peut s'inscrire en suivant des liens qui sont sur le site. Si quelqu'un n'avait pas d'accès, n'hésitez pas à demander. Quelques nouvelles de Guylaine. Guylaine ne va pas très bien. Elle a des soucis de santé dans le sens où ils font des examens puis ils ne trouvent pas. C'est important de penser à elle, de penser à elle dans nos prières. Pourquoi pas un petit téléphone, peut-être une petite visite. Je crois que ça lui ferait plaisir. Merci d'y penser. Une autre petite information toute pratique. On arrive en période d'hiver, donc maintenant les locaux sont chauffés. Puis je vous rappelle juste qu'on aimerait chauffer les locaux et puis pas les oiseaux ou le ciel qui est autour du bâtiment. Donc pensez, c'est vrai, à bien fermer les portes. C'est pas toujours évident parce qu'on est plusieurs à rentrer, on laisse la porte ouverte pour le suivant. C'est peut-être au dernier à fermer finalement pour que la chaleur reste dedans et qu'on évite des dépenses inutiles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous invite à vous lever. Je partage avec vous deux versets qui sont d'un psaume de David. Le psaume 40, et qui sont des versets aussi qui me sont chers parce qu'ils sont aussi utiles pour ceux qui vivent des temps de persécution. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Et dans que tous ceux qui te cherchent, il y a aussi tous ceux qui sont dans des situations difficiles pour te rechercher. Sois dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.